J'ai choisi ce sujet en grande partie pour des raisons de circonstances, parce que je viens d'achever un livre sur ces gens, ces professeurs et ces savants du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quant au lapsus, ça se passe en effet à Athènes, mais les circonstances veulent que cela ait été des professeurs de différentes villes de Grèce qui venaient à Athènes. Donc vous voyez que ça tombe très bien et que ça s'arrange très bien. Alors, étant dans ce sujet, ça m'a tenté d'en parler, et d'autre part, je pensais qu'il y avait un certain rapport avec le Collège de France, où malgré tout il s'agit de professeurs et de savants. D'ailleurs, il ne s'appelait pas professeur et savant, c'est moi qui ai essayé de rejoindre le biais de l'actualité de cette façon-là. Je dois vous avouer tout de suite, et nous reviendrons là-dessus, qu'il s'appelait sophiste. Seulement, le mot a pris maintenant une valeur péjorative qu'il n'avait pas à ce moment-là, nous aurons à voir pourquoi, c'était des professeurs. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de revoir un petit peu, de vous aider à vous représenter cette aventure, car c'est une aventure, c'est la première aventure intellectuelle cherchant à fonder un enseignement supérieur s'adressant à tout le monde. Et par conséquent, je pense que c'est important, même dans notre siècle, de voir cette expérience. J'ajoute une petite chose, vous pourrez vous étonner qu'on travaille encore maintenant et qu'on use ses dernières forces à faire un livre sur ces gens, étant donné que ça devrait être connu depuis si longtemps. Le travail commence par le fait que ces gens ont énormément écrit, mais que tout a été perdu. Nous n'avons plus que des témoignages sur eux ou contre eux, ce qui arrive même pour les meilleurs professeurs. Et d'autre part, nous avons quelques fragments qui sont des citations, des éléments de grands traités qu'ils avaient écrits et avec lesquels il faut se battre pour reconstituer leur pensée, leur action, qui est souvent déformée par les témoignages du temps. Alors je voudrais vous retracer un peu cette aventure et évoquer d'abord avec vous le surgissement de ces personnages dans Athènes. Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la grande période d'Athènes. D'autre part, c'est la période de Périclès, c'est l'époque quand mes sophistes, si j'ose employer ce possessif, étaient à Athènes, c'est le moment où on travaillait aux constructions de l'Acropole. Athènes avait triomphé dans les guerres médiques, c'était la cité importante, elle avait un empire, c'était la grande prospérité et l'essor intellectuel. Et c'est à ce moment-là que se place cette aventure pratiquement entre 440 avant Jésus-Christ et 400 avant Jésus-Christ. Il faut se rappeler que ça va dans l'autre sens. J'aurais épuisé toute ma vie à rappeler aux gens qu'il faut compter dans l'autre sens. Peut-être qu'ici, c'est pas indispensable, je ne sais pas. Il faut aussi se représenter qu'à Athènes, à cette époque-là, il n'y avait pas, à proprement parler, d'enseignement. Un enfant grec avait trois maîtres. Il avait le pédotribe qui lui apprenait à aller à la palestre, à pratiquer les sports. Il y avait le citariste qui lui apprenait la musique. Et il y avait, ce qui nous ressemble plus, le grammatiste qui lui apprenait à lire, ce qui était déjà un grand progrès, une nouveauté, et lui apprenait à lire les poètes, Homère, dans lesquels il était censé trouver des enseignements intellectuels et moraux. Et les choses s'arrêtaient là, à la fin de son enfance, par conséquent. Il y avait au-delà deux possibilités. Il pouvait se faire individuellement le disciple d'un philosophe, il y en avait dans les différentes villes de Grèce, mais surtout à Athènes, nous connaissons Socrate, on allait, on suivait, on parlait avec lui de l'état du monde, mais aussi de l'état du monde matériel, de ce qu'on pouvait en savoir selon les philosophes, leurs intérêts étaient divers. Ou alors, il pouvait aller auprès d'un personnage qu'il connaissait par expérience, qui pouvait être pilote, architecte, etc. Mais il n'y avait rien d'organisé, et il n'y avait rien, là commence une petite curiosité, il n'y avait rien de payant. Parce que c'est un précédent sur lequel je reviendrai. Mais les sophistes ont fait scandale, c'était des gens éminents, les sophistes ont fait scandale en se faisant payer pour leur enseignement. Ce qui, je dois dire maintenant, nous paraît extrêmement naturel, mais qui a été tout à fait suffocant. Alors, ils sont arrivés venant de toutes les villes de Grèce et en même temps, parce qu'il y avait un essor intellectuel rationaliste très grand. Les noms, je pense que ça vous est égal, les deux principaux, il y en a 6 ou 7 que nous connaissons bien, qui sont célèbres, qui avaient écrit beaucoup, dont Platon parle tout le temps. Les deux principaux sont Protagoras et Gorgias. Et qu'enseignait-il? Voilà, c'est le début d'un enseignement pour des jeunes gens, c'est quand même important. Eh bien, ils enseignaient, c'était bien difficile, il faudrait que je remonte un tout petit peu pour vous dire qu'ils enseignaient à un moment où ce mouvement intellectuel se développait de façon extraordinaire et ça accompagnait un mouvement politique. Athènes au 5e siècle, ça veut dire le développement de ce qu'on appelait les technaï, c'est ce qui a donné technique, technicien, etc., un mot dont nous vivons et dont vous vivez. Mais les technaï, à ce moment-là, ça voulait dire un art, une discipline. Il y avait la techné du pilote, la techné, etc. C'était la prise de possession par l'homme d'un certain moyen d'agir sur la réalité. Et c'était une nouveauté. Elles étaient toutes en train de naître en même temps qu'une des principales qui était la médecine, qui commence, toutes ces disciplines rationnelles surgissent en même temps. Il y avait une médecine religieuse, etc., avant, mais l'effort pour mettre en règle, en code, en analyse, tous ces savoirs pratiques, il date de ce moment-là. Alors, les sophistes vont s'insérer là-dedans et faire plusieurs technas et plusieurs sciences ou arts, comme la rhétorique, la politique, etc., qui seront leur enseignement. Mais d'autre part, il faut dire aussi que cet enseignement se développe, et spécialement à Athènes, parce qu'Athènes venait de s'organiser en démocratie. Elle l'était depuis un certain temps, mais le 5e siècle, elle l'est beaucoup plus nettement, et c'est une petite cité, une démocratie directe, et tout dépend donc, comme on l'a dit abondamment, de la parole. Ça veut dire que chaque citoyen pouvait être amené à plaider en justice. Il y avait quantité de procès, pas de techniciens, pas d'avocats, pas de juges, c'était les citoyens avec les citoyens, et à intervenir dans l'assemblée du peuple pour toutes les questions politiques. Donc la parole et l'analyse des faits de droit ou de politique devenaient indispensables à Athènes. Arrivent mes sophistes, qu'enseignent-ils? Ils enseignent à bien parler, à bien penser, c'est-à-dire à analyser, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir donner le bon conseil en politique, à pouvoir défendre une thèse ou une autre selon qu'on est accusateur ou accusé. Vous voyez que ce qu'ils enseignent répond exactement à cette demande politique. Et en même temps, ils font de cela une espèce d'enseignement théorique, une techné, là aussi, parallèlement aux autres qui se créent. C'est suffocant comme création, parce que les philosophes considéraient qu'on pouvait chercher à comprendre le monde, mais non pas appeler enseignement une chose qui avait une utilité pratique dans la vie courante. Ça a scandalisé les philosophes et Platon se plaint de ce but pratique. Qu'aujourd'hui, nous sommes loin de repousser l'idée qu'un enseignement serait méprisable parce qu'il mène à une carrière est une idée qui me semble avoir été singulièrement abandonnée. C'était d'ailleurs pas tout à fait une carrière, c'était pour se défendre soi dans la vie. Les élèves des sophistes disent bien qu'ils ne cherchent pas à devenir sophistes eux-mêmes, mais à mieux vivre comme citoyens et dans leur maison, en pouvant comprendre les problèmes et se défendre. Alors, c'est pour cela qu'ils peuvent se faire payer, parce qu'ils jugent qu'ils enseignent quelque chose qui a un but pratique. Et voilà, d'un coup, cet enseignement créé, un enseignement qui doit déboucher sur une utilité pratique, et un enseignement que, par conséquent, ils peuvent faire payer. C'est un scandale. Les gens autour de Socrate et Platon qui se placent, qui étaient un tout jeune homme au moment de l'enseignement des sophistes, n'ont pas de mots assez sévères pour décrire cette œuvre de charlatan qui consiste à se faire donner de l'argent pour donner des conseils dans un domaine intellectuel. C'est quelque chose qui paraît horrible et on mesure par là ce que ça avait de nouveau. Mais il faut aussi se représenter que cela a eu un succès fou, ça n'existait pas, et tout à coup, on découvre cette possibilité. On va pouvoir apprendre à penser, à réfléchir, à discuter, on va tout apprendre. Et qu'est-ce qui se passait avant? C'est que Athènes était une cité relativement aristocratique, où on avait quoi en dehors des maîtres que je vous ai dit, on avait la bonne tradition aristocratique pour connaître la vertu et le courage, etc. Et si on n'appartenait pas à ces familles, il n'y avait pas beaucoup de chances de faire quoi que ce soit. Et maintenant, on dit aux gens, eh bien, vous pouvez, vous venez, tout cela s'enseigne. Vous pensez l'excitation, et alors ces gens qui n'étaient pas athéniens, ils arrivaient à Athènes avec une énorme réputation, ils n'étaient pas tellement nombreux à ce moment-là, et je vous ai apporté un petit texte que je trouve charmant, qui est la description, les écrits de Platon se moquent toujours des sophistes, mais ils se moquent aussi de leur succès, et gentiment, dans le traité de Platon qui s'appelle Protagoras, n'est-ce pas, le premier de mes sophistes, Socrate dort et on voit l'arrivée d'un jeune homme haletant, bouleversé, parce que Protagoras est à Athènes qu'on va pouvoir suivre les cours. Alors Socrate dort et alors il raconte « La nuit dernière, de grand matin, Hippocrate, fils d'Apollodore et frère de Phason, donnait dans ma porte des coups violents de son bâton. Quand il lui eut ouvert, il se précipita à l'intérieur en criant de toutes ses forces « Es-tu éveillé, Socrate, ou dors-tu » Je reconnus sa voix et lui dis « C'est toi, Hippocrate, quelle mauvaise nouvelle m'apportes-tu » ?»« Rien de fâcheux, dit-il, rien que d'excellent. Ta nouvelle sera donc la bienvenue, mais de quoi s'agit-il et pourquoi cette visite si matinale ?»« Protagoras est ici, me dit-il en s'arrêtant près de moi. » Et en grec, c'est tout haché, il est hors de souffle, n'est-ce pas ?« Protagoras est ici. » Alors, Socrate essaye de le calmer un tout petit peu et ils se rendent ensemble dans la maison d'un riche Athénien où se trouve un certain nombre de sophistes et en particulier Protagoras. Alors, je vous lis quelques mots de la description qui est... on ne peut pas faire mieux comme ironie à l'égard de professeurs ayant du succès. En entrant, nous trouvâmes Protagoras en train de se promener dans le vestibule. Il était escorté dans sa promenade d'un côté par Callias, fils d'Hipponikos, le frère de Callias né de la même mère, par Alos, fils de Périclès, et par Charmide, fils de Glaucon. Tout ça, ce sont des gens très connus de moi, peut-être pas de vous, mais de moi. De l'autre côté, par le second fils de Périclès, Xantippe, par Philippides, fils de Philomélos, et par Antiméros de Mindée, le plus distingué des disciples de Protagoras, auprès de qui il apprend le métier de sophiste pour l'exercer lui-même à son tour, ce qui est signalé parce que c'est une exception. D'autres suivaient en arrière, écoutant leurs conversations. Des étrangers, pour la plupart, à ce qu'il me parut, que Protagoras entraîne à sa suite hors de toutes les villes qu'il traverse, les tenant sous le charme de sa voix comme un nouvel Orphée, et qui sont forcés de le suivre par l'effet du charme, mais aussi dans le cœur quelques gens d'ici. La vue de ce cœur me donna une grande joie par la beauté des évolutions grâce auxquelles ils avaient soin de ne jamais se trouver devant Protagoras de manière à lui faire obstacle. Chaque fois qu'il faisait demi-tour avec ses voisins de la première ligne, les auditeurs de l'arrière, avec un ensemble admirable, entr'ouvraient leur rang à droite et à gauche, et par une marche circulaire se retrouvaient derrière lui. C'était merveilleux. Alors, je serais très tenté de vous lire la suite du texte, parce que il y a tous les sophistes réunis dans cette maison. Et après celui-là, comme dit Homère, je reconnus encore Hippias, Délice, encore celui-là tout de même, assis dans la partie opposée du portique sur un siège élevé. Autour de lui, sur des bancs, se trouvaient Eryximaque, fils d'Acouménos, fête de Minotaure, etc., etc. Alors, ils sont en train d'interroger Hippias sur la nature et sur les choses du ciel, et lui, du haut de son trône, prononçait des arrêts et dissertait sur les problèmes posés par eux. Il y en a six à la suite, je ne peux pas vous les lire tous, mais le Protagoras de Platon se trouve dans le commerce. Alors, vous voyez, c'est une scène qui montre l'excitation intellectuelle de cette époque et, devant cette découverte, cet enseignement pour des adultes et les nouveautés qu'ils apportaient. Je pense que ceux qui travaillent au Collège de France ont l'habitude des cours à succès où se précipite un auditoire qui réclame, monsieur l'administrateur, de nouvelles salles, des sonorisations, etc. C'est la scène du Protagoras de Platon qui se recommence de la sorte. Cela va sans dire qu'un tel succès devait aussi aller avec des objections et des inquiétudes, et c'est vrai que l'arrivée de ces gens, de ces professeurs dans Athènes, souleva un certain scandale. Alors c'est l'autre face à laquelle j'en viens maintenant, car c'était tellement nouveau et peut-être tellement exagéré et dangereux à ce moment-là, la question est ouverte, qu'il y eut beaucoup de protestations. La première qui est amusante, elles le sont toutes, mais la première qui est amusante, c'est qu'on avait l'habitude que l'excellence fût sportive. Et qu'est-ce que c'était que ça, une éducation intellectuelle? Est-ce qu'on allait réussir dans la cité, se faire connaître et admirer par des qualités intellectuelles? Oh, ça paraissait extrêmement inquiétant, et l'élément conservateur de la cité n'aimait pas cela. Alors, je vous lis un autre texte. Vous verrez que ces textes grecs, c'est pas ennuyeux. C'est un texte d'Aristophane qui est écrit, Protagoras était à Athènes, était venu à Athènes pour la première fois 15 ans avant, Gorgias était arrivé 3 ans avant. C'est juste en plein milieu de l'effervescence de ses professeurs. Et il a fait une pièce, je ne sais pas qui oserait faire une pièce de cette sorte maintenant, sur les sophistes et Socrate et sur la nouvelle éducation, avec deux plaidoyers qui s'opposent en plein milieu sur l'ancienne éducation et la nouvelle. Je connais des gens qui écrivent sur l'ancienne éducation et la nouvelle, mais je ne crois pas qu'ils rempliraient toute une pièce pour une cité entière. En tout cas, je vous lis la façon dont Aristophane, qui est un très bon poète, fait évoquer la nouvelle éducation vue par l'ancienne éducation. Alors, voilà ce que dit, ce qu'il appelle le raisonnement juste, nous verrons après pourquoi, c'est-à-dire l'ancienne éducation, c'est précisé ailleurs. C'est précisé tout de suite, dès le premier vers. Je dirais donc en quoi consistait l'ancienne éducation. lorsque je florissais en professant la justice et que la tempérance était en honneur. D'abord, il ne fallait pas qu'on entendît un enfant souffler le moindre mot. Ensuite, on voyait marcher dans la rue en bon ordre pour se rendre chez le maître de musique, tous ceux d'un même quartier, sans manteau et en rang serré, neigea-t-il dru comme farine. N'ai-je pas tellement Athènes, enfin, il faut... Bon, je saute plusieurs pages parce que vient l'analyse plus poussée. Toujours est-il que brillant et frais, tu passeras ton temps. C'est le jeune homme qui s'il l'accepte, s'il suit l'ancienne éducation. Toujours est-il que brillant et frais comme une fleur, tu passeras ton temps dans les gymnases, au lieu de débiter sur l'agora des bavardages épineux sans queue ni tête, comme on fait aujourd'hui, ou de te démener à propos d'une petite affaire toute de chicane, contestation, rouerie. Tu descendras à l'académie, ce qui en fait est un jardin, où sous les oliviers sacrés tu prendras ta course, couronné de légers roseaux, avec un ami de ton âge, fleurant le smilax, l'insouciance et le peuplier blanc qui perd ses chatons, jouissant de la saison printanière quand le platane chuchote avec l'orme. Si tu fais ce que je te dis et y appliques ton esprit, tu auras toujours la poitrine robuste, le teint clair, les épaules larges, la langue courte, la fesse grosse, la verge petite. Mais si tu pratiques les mœurs du jour, d'abord tu auras le teint pâle, les épaules étroites, la poitrine resserrée. Je passe sur la suite. Il te fera tenir pour honnête tout ce qui est honteux et honteux, tout ce qui est honnête, etc. Aristophane ne mâchait pas ces mots. Vous voyez que les intellectuels, l'éducation intellectuelle n'était pas très bien vue. Il s'agit de la pièce appelée « Les nuées ». Et elle s'appelle « Les nuées » parce que le cœur est formé des nuées, des nuages, mais aussi parce que ce sont les nouvelles divinités dans ce monde nouveau et que Socrate se promène dans les airs. Tout ça, on s'occupe de choses trop élevées au lieu d'aller faire du sport. Premier scandale, donc premier problème, la vieille éducation sportive, vertueuse, etc. Deuxième problème qui a extraordinairement frappé les gens, les sophistes promettaient d'enseigner à exceller, c'est-à-dire ce qu'on traduit souvent par la vertu, c'est-à-dire d'être un homme de bien dans la cité, etc. Et avant, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose qu'on avait par héritage ou en imitant les modèles des ancêtres. Et alors voilà qu'on dit, il suffit de venir et de payer, je vais vous apprendre l'excellence dans la cité, l'arete, la vertu. Et tout à coup, surgissement dans toute Athènes, qui posait volontiers les problèmes sous forme abstraite, est-ce que la vertu peut s'enseigner ? Vous savez que quand on fait faire du grec à des jeunes, on est absolument ahuri de voir cette question partout. Pourquoi est-ce qu'on trouve dans tous les textes, est-ce que la vertu peut s'enseigner ? C'est une louable question, mais que personne ne se pose normalement. Il faut comprendre qu'elle s'est posée pendant 30 ans, avec une acuité mais brûlante, parce que c'était le complet retournement social et intellectuel, qu'on puisse donner des leçons pour faire un homme accompli. Et il y a des textes dans les historiens, il y a des textes dans la tragédie. La tragédie d'Euripide, j'ai relevé 11 discussions de ce problème. Dans les moments les plus inattendus, on apprend à Hécube la mort de sa fille sacrifiée dramatiquement, etc. Et elle dit... Ah, c'est curieux, est-ce l'hérédité ou est-ce que la vertu s'apprend ? Il est vrai que dans la culture, de l'agriculture, si on a une bonne terre, mais je me demande tout de même le naturel. Et tout, vous comprenez, c'était vraiment une question d'actualité qui les bouleversait. Il faut le prendre, c'était une question d'actualité. Et dans Aristophane, et dans Thucydide, et naturellement dans Platon, nous avons des dialogues de Platon intitulés « Si la vertu peut s'enseigner », n'est-ce pas ? Donc, ça a été le scandale de l'apparition de professeurs qui allaient former des gens accomplis. Mais le troisième scandale, la troisième cause de scandale et de beaucoup la pire, était, comme je vous l'ai indiqué, que la première matière, la première technique qu'enseignaient les sophistes, c'était la rhétorique. Alors, est-ce que vraiment la rhétorique pouvait avoir cette importance et est-ce que ce n'était pas très dangereux ? La rhétorique ou l'art de parler, de présenter des arguments, de trouver des arguments et de les ordonner de façon convaincante. Naturellement, cela, dans la pratique, existait avant. Quand des héros dans Homère parlent, ils essayent que leurs arguments soient convaincants et soient dans un ordre clair. Mais c'est juste avant l'éclosion de cet enseignement nouveau que nous trouvons l'effort pour faire de cela une techné, un système. Et en fait, ça deviendra tellement ça que dans le grec postérieur, si on dit « un tel a écrit une techné », ça veut dire un art de la rhétorique. C'est tout court, sans mots ajoutés, ça veut dire une rhétorique. Et ils ont tous été, en même temps, des philosophes et des professeurs de rhétorique, mais avant tout des professeurs de rhétorique, pour ce qui est de l'enseignement. Alors, nous avons des idées sur ce qu'ils enseignaient. Ce n'était pas du tout la simple technique pratique qui avait commencé, comme je disais, juste avant eux, et en fait en Sicile. Ils ont été plus loin, et ils ont eu, les plus grands, une vraie philosophie du langage et un vrai émerveillement devant ces différentes possibilités. Alors, je résume beaucoup. Je vois deux orientations avec mes deux grands maîtres, Gorgias et Protagoras. Je commence par Gorgias parce qu'il est le plus rhétoricien des deux et qu'il a eu une grande influence sur le style. Un style épouvantable. Il a découvert les figures de style, les antithèses, les mots qui riment, les jeux de mots. C'est un style terriblement chargé, mais que des disciples ensuite ont imité plus simplement. Il a découvert les procédés. Mais surtout, il a eu conscience, et lui le premier, de la magie du langage. C'est lui qui emploie le mot magie, le mot incantation. Et il a été stupéfait de voir que on pouvait, à côté d'une démonstration de vérité, exercer un effet délibérément sur les émotions des gens. Il nous a dit cela dans un petit plaidoyer fictif amusant qui est une défense d'Hélène, la belle Hélène, vous connaissez ? Alors, la belle Hélène, on cherche, et c'est une bonne méthode de discussion, si elle a agi par la volonté des dieux, elle n'est pas coupable, etc., par l'amour encore moins, et si elle a agi par la persuasion, elle n'est pas coupable du tout, car la parole, la parole, et puis il y a tout un éloge de la magie de la parole. Alors, vous voyez, c'est assez formel, mais c'est une prise de conscience des procédés, du langage et du style qui a eu une influence considérable. Protagoras, lui, était plus intellectuel et dialecticien. Et ce qui semble l'avoir le plus intéressé, c'est l'agencement des arguments. Nous savons qu'il disait que sur toute thèse, il existe deux logoi, deux doctrines ou deux arguments, etc., opposés. Il disait aussi que l'on pouvait apprendre à rendre fort le logos faible et inversement. Autrement dit, sur toute thèse, on peut défendre, enfin sur tout problème, on peut défendre deux thèses, et pour chaque argument, on peut en modifier la valeur par un déplacement pour le faire jouer dans un sens ou dans l'autre. On peut, nous le voyons, c'est fait dans les auteurs du temps, on peut retourner l'argument, dire « Ah, raison de plus, mais si c'est comme ça », ou bien déplacer. Et il y a toute une logique qui s'est inventée à ce moment-là, tous les moyens de retourner ces choses. Et naturellement, en justice, c'était très utile. Il y a deux points de vue complètement différents. Ça peut être un procédé purement pratique pour convaincre les gens de n'importe quoi. Alors, scandale. Ça peut être aussi un admirable procédé de recherche, puisque dans tous les exemples que nous avons, ce sont les deux thèses face à face. Et que c'est en mesurant les deux thèses l'une à l'autre que se dégage, non pas la vérité, Protagoras ne croyait pas qu'on pût l'atteindre, mais ce qui avait le plus de chance d'approcher la vérité et ce qui, pour les gens, dans la pratique, dans la vie courante, pouvait en tenir lieu. Après tout, vous savez, le rôle d'un avocat pris tout seul, c'est un peu malhonnête, il plaide pour son client, mais on n'a pas beaucoup trouvé mieux que le rôle de deux avocats plaidant les deux thèses pour qu'on se fasse une idée au total. Eh bien, dialectiquement, c'était ça que faisait Protagoras. Ceci est une parenthèse, c'était pour suggérer que ceci n'allait pas sans difficulté, comme nouveauté, dans une ville habituée à croire à la vérité, à la justice, et pas tous ces procédés inquiétants. Il faut se représenter d'ailleurs que ce fut une mode extraordinaire, ces discours doubles. C'est le titre d'un des ouvrages de Protagoras, les discours doubles. C'est aussi le titre d'un petit traité qui nous est resté, un petit traité sophistique de l'époque, où on voit comme ça des thèses juxtaposées pour mesurer philosophiquement cette fois la valeur de... Et puis nous avons un célèbre auteur du temps, tout ça je suis dans mes 30 années, n'est-ce pas, c'est, tout ça est très serré, un auteur du temps qui s'appelle Antiphon. Heureusement, vous n'êtes pas helléniste, donc vous n'êtes pas plongé dans les affres pour savoir s'il y en avait un, deux ou trois Antiphon. L'important est qu'il y a un Antiphon qui a écrit ce qu'on appelle les tétralogies, qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui est une série sur chaque des cas hypothétiques, quatre discours, accusation, défense, re-accusation, redéfense, sont des cas fictifs. Alors on en fait le tour, c'est serré comme tout. C'est amusant d'ailleurs. C'est donc une mode terrible et c'est en même temps une occasion, comme j'essaye de le dire, mais je fais des parenthèses enthousiasmées à chaque fois, c'est aussi une occasion de scandale. Je vais vous lire un autre passage des Nuées d'Aristophane qui montre que dès le début, donc en 423, dès le début, ces conseils passaient pour quelque chose qui s'appelle le moral, la justice, etc. dans la cité. Je vous lis deux petits passages de la fin de la pièce. Je vous raconte tout de même en gros le sujet de la pièce. Il y a un homme qui a des dettes, déjà, et il veut devenir disciple de Socrate et des sophistes. Autre parenthèse, Socrate et les sophistes, on ne peut pas dire ça, mais c'est ce que fait Aristophane, parce que du point de vue de l'extérieur, c'était des professeurs avec des jeunes gens, et qu'eux, ils ont passé leur temps à essayer de se distinguer, Platon a essayé de distinguer, mais pour le public, ça se ressemblait beaucoup. Alors, il va trouver Socrate et les sophistes, on ne veut pas de lui, il est trop vieux, mais il met son fils à l'école pour qu'il trouve de bons arguments pour ne pas payer ses dettes. Vous voyez que dans une comédie, on percevait donc ce qu'avait de grave cette invention de la rhétorique. Alors, le jeune homme apprend, il sort il sortira avec des arguments tirés par les cheveux, assez amusants, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais voici les conseils, c'est la suite du débat que je vous ai dit, où je vous ai lu le plaidoyer de l'ancienne éducation. Voici ce que lui dit à ce jeune, enfin au jeune homme type, la nouvelle éducation. J'en viens aux nécessités de la nature. Tu as failli, tu as aimé, tu as commis quelque adultère, elles ont appris sur le fait. Te voilà perdu, car tu es incapable de parler. Mais si tu es avec moi, jouis de la nature, saute, ris, ne tiens rien pour honteux. Es-tu surpris en adultère? Tu répondras au mari que tu n'as rien fait de mal. Puis rejette la faute sur Zeus. Celui-là aussi, diras-tu, est vaincu par l'amour et par les femmes. Et comment toi, simple mortel, pourrais-tu être plus fort qu'un dieu? Vous voyez le genre d'argumentation, nous le trouvons en fait dans des œuvres du temps, l'argument. Et puis alors, fort de tout cela, le jeune homme se met à battre son père, qui est contrarié, et il lui prouve qu'il a eu tout à fait raison de battre son père. Alors le père dit, mais nulle part la loi ne permet de traiter ainsi son père et le fils. N'était-il pas un homme, celui qui le premier établit cette loi, un homme comme toi et moi? Et n'est-ce pas par la parole qu'il persuadait les anciens? Serait-il donc moins permis à moi d'établir également pour l'avenir une loi nouvelle, d'après laquelle les fils pourront battre les pères à leur tour? Tous les coups que nous recevions avant que cette loi fût établie, nous les en tenons quittes. Et voulons bien avoir été rossés impunément. Mais observe les coqs et les autres bêtes que tu sais, comme ils rendent les coups à leur père. Et pourtant, en quoi diffèrent-ils de nous ceux-là, si ce n'est qu'ils ne rédigent pas de décrets? Voyez l'argumentation naturellement ironique, naturellement forcée, mais qui marque bien que dès le début, je vous dis 3 ans après l'arrivée de Gorgias, on sentait que le nouvel enseignement risquait d'être désastreux pour la recherche de la vérité, de la justice et de la morale en général. Et finalement, c'est ce que Platon essaye de démontrer, Platon c'est donc, disons, 25 ans après, essaye de démontrer dans toute la série de dialogues où il montre la différence profonde entre Socrate et les sophistes, Socrate visant le bien et le juste et les sophistes étant peu soucieux de la vérité du bien et du juste. Et ce qui se passe alors, c'est que ce mot sophiste, qui voulait dire technicien de la sagesse, de la Sophia, devient un mot péjoratif par la décision, l'influence et l'importance de Platon et d'Aristote. À partir de là, le mot sera employé dans un sens défavorable, alors que on trouve même encore des textes, même à ce moment-là, où sophiste est si peu défavorable qu'on appelle Socrate un sophiste. Ça veut dire un maître, ça veut dire un homme qui recherche la sagesse. Alors, voilà nos maîtres que nous avons accueillis tout à l'heure avec cet enthousiasme, qui sont maintenant avec un label, si j'ose dire, péjoratif et qui semblent rencontrer une opposition terrible, probablement en partie justifiée, non pas par leurs intentions, mais, comme toujours, par l'usage que leurs disciples ont fait de leur enseignement. C'est-à-dire par l'usage pratique des amoralistes et des ambitieux dans Athènes qui, en effet, tenaient des propos du genre de ceux que je vous ai lus. Alors, vais-je vous laisser, vous pensez bien que j'ai une troisième partie, vais-je vous laisser avec cette impression de succès, de scandale? Non, je voudrais évoquer l'espèce d'héritage qui est sorti de cette explosion du 5e siècle. Car je crois qu'il est très important et important pour nous encore aujourd'hui. Alors je prends les choses dans l'ordre. Cette rhétorique qu'ils enseignaient, ça existe encore. À ma connaissance, on en enseigne même l'histoire dans cette maison. Mais ne faisons pas un saut si grand du 5e siècle à nos jours. Entre parenthèses, je ne suis pas sûr que les littéraires ne soient pas quelquefois soumis aux suspicions qu'on a héritées des sophistes du 5e siècle. Ils ne passent pas pour ne pas chercher la vérité comme alors. Mais enfin, ceci est une parenthèse. La rhétorique avait voulu très rapidement apprendre des tas de moyens pour plaider une cause et se faisait fort de rendre tout le monde par un enseignement meilleur et plus capable. Aussitôt, il y a eu des résistances, non, ça ne peut pas s'enseigner, c'est dangereux, c'est pas moral, etc. Résultat, il y a eu une baisse des ambitions, ce qui arrive presque toujours avec une doctrine nouvelle. Et si je descends de 30 ans, je trouve un maître de rhétorique qui est Isocrate. Isocrate, au début du 4e siècle, ouvre une école de rhétorique dans laquelle il enseignera et à parler et à bien penser avec une idée morale à l'arrière-plan, car il pense que pour être convaincant, il faut avoir un certain nombre d'accords avec les vertus reconnues, etc. Enfin, il ouvre une école de rhétorique. Et son premier traité, son manifeste, quand il ouvre cette école, s'appelle « Contre les sophistes ». Autrement dit, on sauve la rhétorique, mais en rejetant ce que les sophistes avaient eu de trop ambitieux. On admet que il faut d'abord être bien doué, on ne peut pas apprendre ça à tout le monde, qu'il faut des exercices pratiques, qu'il faut l'occasion, ça ne s'apprend pas comme on prend une chose et on la donne, et aussi que ça doit être allié avec la morale d'une certaine façon. On prend donc une forme de cet enseignement qui est un peu assagi. C'est la forme qu'Isocrate a fait rayonner, qu'il a passé à Cicéron, que Cicéron a fait rayonner et qui a duré dans tout notre enseignement. Il était Isocrate en pugilat, vous le comprendrez, avec Platon. Le philosophe qui ne veut que le bien et le juste, le professeur qui veut, il a une formule en disant le bien et le juste tels qu'on les entend couramment, tels qu'on suppose qu'ils sont, enfin qui rabat de ses ambitions et qui enseigne des choses pratiques pour réfléchir, c'est plus modeste. Et Platon est assez méprisant, il dit Isocrate qui possède peut-être en lui une certaine philosophie, mais qui défend... Oui, il faudrait que je vous dise que tous les deux voulaient s'appeler philosophe. On ne savait plus comment s'appeler, comme sophiste était usé. Et alors, en fait, Platon est resté le philosophe et Isocrate le rhétoricien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que jusqu'à il y a 15 ans à peu près, nous avons eu dans notre enseignement, les choses s'étant mises en place à la sortie du 5e siècle, une classe qui s'appelait la rhétorique, qui s'est appelée la première, etc., suivie d'une classe qui s'appelait la philosophie. C'était la mise en place après ces débats sur lesquels il y a des écrits et des écrits en quantité. Ça a changé, mais vous voyez que ça nous mène quand même très près de l'époque actuelle. Donc, la rhétorique, dans cette espèce de mise en place, a été sauvée et est devenue un élément pendant des dizaines de siècles, un élément décisif de la formation humaine. Et puis, il y a tout ce qui est sorti de cette étude de la rhétorique. Parce que, pour bien convaincre... Alors, d'abord, il y a la logique. Ils ont réfléchi sur le raisonnement. Ils n'en ont pas encore fait un art, une science complètement dépouillée de finalité pratique. Aristote, qui vient donc 30 ans après, 35 ans après, dit qu'il est le premier à avoir donné cette valeur purement théorique à la logique qu'avaient entrevue les sophistes. Mais elle est sortie de là, de l'art de discuter et de l'art de la dialectique. Et puis, pour convaincre, il faut pouvoir montrer d'abord qu'une chose est vraisemblable. Vraisemblable, ça veut dire que tout le monde s'accorde pour penser qu'un homme placé dans telle condition fera telle chose. J'ai des exemples très amusants à l'esprit, ça sera pour une autre fois. Pour savoir qu'un homme placé dans telle condition fera probablement telle chose, il faut étudier les comportements des hommes, des particuliers, des cités, en paix, en guerre, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il faut étudier l'histoire, et c'est ce qu'ils ont fait. Les sophistes ont publié des listes des choses historiques. Ils ont analysé les constitutions, les systèmes politiques, pour qu'on puisse en discuter. Autrement dit, ils ont en effet fondé une techné politique. Techné politique, ce sont les mots. Ils ont pratiqué une psychologie dans les plaidoyers du temps. Il y a des arguments, puis il y a des sentences générales. C'est pas possible, car les hommes, etc., des réflexions, qui sont déjà une amorce d'anthropologie. On peut tirer toute la liste, car c'est là que cela part. Les sciences humaines sont les sous-produits de la rhétorique. À cette époque, bien entendu. Ça a été un espèce d'élan sans pareil pour mettre tout ça, et un élan trop ambitieux. Il y a eu l'art politique, il y a eu l'art stratégique, et ils écrivaient sur tout cela. Ce qui mérite quand même qu'on salue ça, parce que je veux dire que ça a été en 30 ans, et qu'après cela, ces choses ont continuer à exister, plus ou moins vivement selon les époques, mais elles ont vraiment eu leur point de départ là. Enfin, il faut ajouter une dernière chose, sans quoi mon exposé serait tout à fait injuste, c'est que j'ai beaucoup parlé de la rhétorique parce que c'est ce qui a fait scandale et ce qui a été la grande nouveauté dans cette Athènes. Mais les sophistes étaient aussi des philosophes avec une pensée, avec des traités, avec des écrits. Ils ont été les premiers philosophes rationalistes, je simplifie un tout petit peu. Et ils ont été des premiers philosophes de ce qu'on pourrait appeler la libre pensée. Protagoras écrivait dans un esprit scientifique, les dieux. Je ne peux pas savoir, avec le terme savoir scientifiquement, ni s'ils existent, ni quels ils sont. Il y a eu des réflexions sur tous les domaines, c'est pour ça que j'ai pu dire professeur et savant dans le titre. Je dois ajouter qu'ils ont fait aussi des quantités de recherches scientifiques. On disait tout à l'heure que Socrate et les sophistes s'occupaient des choses d'en haut, mais ils étaient aussi mathématiciens. Je dois dire que dans mon livre, Antiphon s'est occupé de choses avec le cercle, et je n'y comprends rien du tout, mais ce sont indiscutablement des mathématiques, et les gens compétents semblent dire que c'était très louable de leur part. Je veux dire qu'il y a tout un pan là sérieux qui montre que c'était non seulement des connaissances pratiques, mais un effort énorme pour dominer et élargir la connaissance vraiment des savants. Seulement alors, là intervient ce que je vous disais au début, c'est que ces écrits-là sont perdus. Et je dis que je me suis donné du mal, mais cet écrit d'Antiphon, il y a une page qui reste et que les gens compétents publient avec des figures et des réflexions, mais le plus souvent, de Protagoras, je dirais que le plus souvent, un extrait à deux lignes, et quelquefois deux lignes qui ont été transmises, qui ont été citées par quelqu'un qui est 15 siècles après ou 8 siècles après, enfin ça dépend, par des philosophes chrétiens qui cherchaient à montrer que les païens avaient été ceci ou cela, et le hasard a fait qu'on a gardé citations. C'est pour ça qu'on a tendance à, que j'ai eu tendance dans cet exposé à négliger ce côté savant, mais il existait. Et il y a une espèce d'injustice de l'histoire si on prend uniquement l'aspect que Platon a attaqué et qui était l'aspect rhétorique. Je dirais une dernière chose pour terminer, c'est que cette injustice de l'histoire n'est pas tellement injuste que cela. Et là, je me lance en terrain périlleux. Je pense que ce n'est pas tellement injuste, ces traités ont été perdus, et vous savez bien qu'il y a un grand hasard qui joue dans ce qui a été perdu ou conservé, mais pas uniquement. Ils ont été perdus parce que ce n'étaient pas des écrivains. Ils ont été perdus parce que la qualité de la présentation, l'expression, c'était savant, c'était difficile. Je vous ai dit que ce que nous avons de Gorgia, c'était hérissé comme style et bizarre. Donc c'est devenu le centre d'intérêt de gens très spécialisés. Il y a eu peu d'exemplaires et puis il y a eu les citations qui en survivaient. Alors, je pense que c'est très moral pour des professeurs de se dire que ça ne fait rien, que leurs traités savants seront perdus. Mais ces sophistes, ils ont eu quelques élèves qui ont discuté, qui ont rabaissé un peu de leur technicité ou de leur trop grande confiance en l'homme. Ses élèves s'appelaient, par exemple, Euripide. À ce nom, les machines s'effondrent. Ils s'appelaient Euripide, ils s'appelaient Thucydide. Enfin, ils étaient des écrivains de l'époque. Ils s'appelaient Isocrate. Et voyez le rapport entre Isocrate et Gorgias, dont il a été élève. Le rapport, les discussions d'Euripide, ce qu'il en a gardé, et les débats qu'il avait entendus, le rapport entre les discours contradictoires chez Thucydide et ses modèles abstraits avec les tétralogies dont je vous ai parlé, c'est le rapport entre des professeurs qui font tout ce qu'ils peuvent en un entretien théorique, et puis l'œuvre qui suit et qui est celle de leurs élèves. Je trouve ça extrêmement juste et consolant. Merci.